l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Pour nous présenter la 40e édition de Musica, je reçois son directeur Stéphane Roth, accompagné de Lucie Lang, qui est ici aujourd'hui dans nos studios en charge de la communication. Alors cette année, le festival Musica se déroule du 15 septembre au 2 octobre et on vous en parle dès maintenant parce que la billetterie sera ouverte dès le 23 juin. Stéphane Roth, bonjour.
Bonjour.
Alors 2022 est déjà la 40e édition de ce festival de musique contemporaine. Alors vous préférez le terme musique d'aujourd'hui, vous nous expliquerez pour quelles raisons. Alors pour commencer, évidemment, on va faire la genèse de ce jeune festival qui a déjà 40 ans.
Oui, qui aura 40 ans l'année prochaine, c'est la 40e édition cette année. Il a été fondé en 1983 et il a connu dès sa création un gros succès à Strasbourg. Il faut aussi se dire qu'en 1983, il y avait moins d'événements dans la ville, moins de festivals. Il y avait le festival de musique classique, mais sinon, hormis le TNS, les théâtres, l'orchestre, l'opéra, la culture était certes présente, mais moins qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et pas d'ouverture sur la musique contemporaine, enfin pas de festival tout du moins, et pas beaucoup d'endroits pour recevoir ce type de musique.
Alors si, en fait, si la ville, l'État, la région ont souhaité créer Musica à Strasbourg, c'est parce qu'il y avait des antécédents, et même des antécédents assez profonds, puisque, on le sait, des compositeurs comme Gustav Mahler ou Richard Strauss sont passés par Strasbourg à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et dans les années d'après-guerre, nous avions deux orchestres à Strasbourg, l'orchestre municipal et l'orchestre radio-symphonique, l'orchestre de la radio, qui était dirigé l'un par Charles Bruck, l'autre par Ernest Bourg. Et ces deux chefs d'orchestre, grands, éminents chefs d'orchestre, étaient des passionnés de création musicale. Et de musique contemporaine. Donc, je dirais, ils se tiraient un peu la bourre et ils jouaient tous les deux des œuvres qui venaient d'être créées à Paris, par exemple, des œuvres d'Olivier Messiaen ou de Pierre Boulez. Et donc, il y a, comme je le disais, il y a une sorte d'antécédent et il y a aussi les percussions de Strasbourg, qui est un des plus anciens ensembles dédiés à la création musicale, qui a été fondé en 1962.
Alors la musique contemporaine, elle a toujours un temps de... on va dire elle est efficiente à un moment par son côté contemporain. C'est pour ça que vous dites musique d'aujourd'hui, parce que vous avez envie, vous, de mettre en avant, on va dire, la jeune génération de musique contemporaine.
Ouais, c'est des termes un peu difficiles. Je crois que en théâtre ou en danse, on se pose un peu moins la question. Aujourd'hui, on dit plus trop théâtre contemporain ou danse contemporaine. On n'a plus vraiment besoin de se le dire. En musique, on l'utilise encore un peu. C'est une notion qui cependant vieillit, puisqu'elle a commencé à être utilisée dans les années 20-30. C'est devenu un terme institutionnel. Assez tardivement, à vrai dire, dans les années 70-80, au moment où Musica a été créée, et également l'ensemble intercontemporain à Paris, créé par Pierre Boulez, ou l'Institut de recherche coordination acoustique musique, le célèbre IRCAM, également à Paris. Mais les choses ont un peu changé depuis lors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans un monde où les catégories esthétiques sont figées et imperméables. Il suffit de rentrer dans un musée et puis de sortir dans la rue, dans la vie, et de s'intéresser à ce que les gens font dans leur vie, à quoi ils s'intéressent. Ah ben, voilà, sans doute sous l'effet aussi de la culture numérique, de l'éducation, on a des cultures qui sont beaucoup plus ouvertes, mixées, voire hétéroclites, au bon sens du terme.
Il n'y a plus de frontières, justement, entre ces types d'art, musique contemporaine, qui pouvaient paraître élitistes à un moment. Tout ça se mélange effectivement avec les courants d'influence de la musique pop, rap, avec toute la création, la scène musicale actuelle. Tout ça peut se mélanger.
C'est ça, et c'est un processus qui a commencé il y a un bout de temps. C'est un processus qui est long, mine de rien. C'est un processus qui a commencé, je dirais, dans la seconde moitié du XXe siècle. Je n'oserais pas le localiser précisément, mais peut-être à la fin des années 60, durant les années 70, on a vu toutes ces fusions entre le jazz, le rock, etc. Ce processus se poursuit. Mais on arrive aujourd'hui à un endroit du processus qui est à la fois extrêmement réjouissant, mais pas si évident à comprendre. Et je crois que c'est un peu le miroir de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bases anciennes qui ont été un peu vidées de leur sens parfois, pas forcément pour le mal. Donc on se retrouve dans un champ où les références sont beaucoup plus dispersées, diffuses. C'est ce qui se passe, je pense, dans le monde de la musique. Et nous, notre rôle à Musica, en tout cas tel que moi je définis le rôle du festival, c'est de s'intéresser à ces phénomènes, justement, plutôt que simplement rendre compte d'une école, d'un genre esthétique en particulier, voire d'une doxa, parce que la musique contemporaine a parfois été un petit peu repliée sur elle-même. Moi, je considère vraiment que quand on utilise la notion de création musicale, on parle de ce qui se passe entre les choses et comment les choses se créent toujours sous des influences diverses.
Alors pour cette année, le thème retenu, même si ce n'est pas un thème imposé comme ça sur le déroulé de tous les spectacles qu'on va pouvoir voir, mais quelque chose qui est beaucoup mis en avant, c'est le moi entre les notes ou la relation intime qu'on peut avoir à la musique. Qu'est-ce que vous entendiez par là, ce moi entre les notes? En fait, c'est la relation qu'on peut avoir au moment de l'écoute de cette musique, ou est-ce que c'est cette influence dont on parlait tout à l'heure?
Je vais enchaîner avec ce que je disais avant. En fait, la musique contemporaine, elle a pu paraître un petit peu élitiste, disons. Hein. Une des raisons, c'est que je pense que la subjectivité a été un peu mise de côté. On a longtemps composé des musiques très techniques, je dirais. Rien qu'à voir le titre des œuvres, parfois, on se demande si ce n'est pas une référence de machine à laver. Je me suis dit... Enfin, ça faisait partie de mon projet de réincarner la subjectivité, de remettre le doigt un peu sur ces artistes, sur leur vie, comment elles participent de leur œuvre, et d'essayer de trouver aussi un point de jonction avec le public. Et donc, cette thématique de l'intime, de la relation subjective à la musique me semblait approprié à aborder ces sujets.
Et à englober tout le monde, en fait.
Tout à fait.
Alors, on va parler évidemment de la programmation et pour commencer, de l'ouverture avec Migrants de Georges Apergis. Ce sera au Palais des Fêtes de Strasbourg. Un sujet d'actualité, on en parlait, musique d'aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas chercher siècle dernier, encore que Migrants, c'est une sorte de thème universel.
Oui, c'est une grande fresque composée par Georges Apergis, donc un compositeur grec, mais qui vit en France depuis 1963. Il n'a pas quitté la Grèce en raison de la dictature des colonels, il est parti un peu avant. En revanche, il n'a pas pu y remettre les pieds après. Il était privé de son passeport puisqu'il n'avait pas fait son service militaire. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu sans papier en France dans les années 60 et au début des années 70. C'est un compositeur avec une grande humanité, une grande ouverture d'esprit et un grand cœur. Face à ce qui s'est passé, surtout, et qui a été médiatisé surtout au milieu des années 2010, en 2015, 2016, on se souvient des propos de Merkel à ce moment-là sur l'accueil des migrants, il a voulu composer une sorte d'hommage. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a voulu aussi, peut-être à sa mesure, chercher à rendre attentifs les gens à un problème humain et mondial. Et que pour le faire, il ne pouvait pas illustrer la chose, mais seulement tenter de sensibiliser ou de créer quelque chose de beau dont les gens seraient émus pour, quelque part, soutenir ces personnes déplacées.
L'invité d'honneur du festival, c'est Kaija Saarioho, la Finlandaise.
Oui.
Pourquoi vous avez eu envie de mettre à l'odeur cette femme?
Alors, c'est la grande dame de la musique, de la création musicale aujourd'hui. Elle a gagné les victoires de la musique classique en France, mais elle a aussi été nommée compositrice de l'année par le New York Times l'année dernière. Elle a créé son dernier opéra qui s'intitule Innocence au Festival d'Aix-en-Provence en 2021. Ça a été un succès colossal. C'est une personne dont j'ai la chance d'être assez proche, puisque lorsque j'étais étudiant en musicologie à Strasbourg, je m'étais intéressé à sa musique et je voulais en savoir plus. Et Voilà, j'avais contacté sans pudeur, un peu bêtement, comme ça, sans me rendre compte de qui j'appelais. J'avais réussi à avoir ses contacts et elle m'avait accueilli chez elle à Paris et elle m'avait donné accès à ses archives pour étudier sa musique. Et depuis, on a gardé de bons liens et je tenais à l'inviter à Strasbourg pour saluer sa carrière et présenter quelques-unes de ses œuvres majeures, dont son opéra Only the Sound Remains, Seul subsiste le son, on pourrait le traduire ainsi, qui est un magnifique opéra qui croise l'esthétique du théâtre no japonais et celle de la scène contemporaine.
Alors moi j'ai une dernière question parce que le temps file. Cela représente combien de compagnies, d'orchestres, de formations musicales ? En fait c'est un vivier qui fait vivre beaucoup de gens ici à Strasbourg, dans la région Grand Est ou sur le territoire national bien évidemment.
Oui, je ne suis pas venu avec mes chiffres, mais je peux vous dire qu'on a environ 40 projets artistiques. Certaines années, on a fait des décomptes et on avait environ 1 000 000 de personnes qui travaillaient au total sur le festival, équipe technique et artistes compris. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. 1 000 000 d'euros sur un budget de 2 millions d'euros, 1 million d'euros repart dans l'économie locale directement. Ce qui est aussi assez important. Et mais Musica, c'est aussi un projet quelque part aussi assez modeste, puisque l'équipe permanente est toute petite. Nous sommes juste 7 personnes. Et c'est aussi un projet aujourd'hui qui s'intéresse beaucoup à des questions, je dirais, de responsabilité sociale. Vous verrez que la programmation est relativement paritaire. Alors, on ne compte pas, on ne cherche pas à faire un 50-50. Voilà, ce n'est pas possible. Mais elle est relativement paritaire, comme elle l'était l'année dernière déjà. Et c'est aussi un festival éco-responsable. Voilà, on imprime beaucoup moins de papier. Parfois, les gens se plaignent qu'il n'y a pas de programme de salle. Mais d'un autre côté, de pouvoir en disposer sur un site internet ou une application, ça me semble aussi plus juste aujourd'hui. Donc c'est un festival qui essaye de s'inscrire tout simplement dans sa ville et dans l'air du temps.
Stéphane Roth, directeur du festival Musica, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle, Musica, c'est du 15 septembre au 2 octobre et la billetterie est ouverte à partir du 23 juin. Vous pouvez évidemment consulter le programme et réserver vos places. Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.